philosophie morale, Père Philippe, 15 novembre 1983, à Saint-Joseph.
La dernière fois, vous nous avez rappelé le danger d'employer le terme « liberté ». Qui est une abstraction, une formalisation, d'où l'emploi du mot acte libre au plan philosophique. Ne pourrait-on pas aussi dire libre arbitre à la suite de saint Thomas, dans le sens qu'il précise lui-même, principe par lequel l'homme juge librement. Vous voyez, principe, donc il faut le saisir, un principe, vous ne le saisissez pas directement. Est-ce que vous avez l'expérience du libre arbitre? Nous parlons au point de vue philosophique. Saint Thomas parle au plan théologique. Alors, au point de vue philosophique, l'expérience dont j'ai, sa seule expérience que j'ai, c'est l'expérience d'acte libre. Je n'ai pas l'expérience du libre arbitre. C'est un principe, du reste, voyez, on souligne, principe par lequel l'homme juge librement. Donc, ce qu'il saisit, c'est de juger librement. C'est l'acte libre. Donc, il juge librement. Par quoi juge-t-il librement? Grâce au libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Saint Thomas le ramène à l'intelligence et à la volonté. Vous voyez? Donc, c'est toujours pour vous faire comprendre. Est-ce que quand je faisais la distinction entre liberté et acte libre, c'était pour vous montrer que nous n'avons pas d'expérience de la liberté. Nous employons tout le temps liberté, mais nous n'avons pas l'expérience de la liberté. Qu'on emploie le mot, c'est bien évident, et on l'emploie tout le temps, d'une façon très abusive du reste. Hein. La liberté, ça devient la panacée, ça devient une propagande. Il faut que le philosophe sente cela, parce qu'on doit sentir l'inflation des mots, l'exagération de certains mots, voyez, sur lesquels on insiste indéfiniment. Alors il y a tout un halo affectif qui est autour et qui fait qu'à partir de ce moment-là, on ne sait plus très très bien ce que ça veut dire. Alors il faut comprendre cela, qu'il y a des mots comme ça qui sont des mots de propagande. Et puis, il faut essayer de comprendre où on a expérience. Puisque le philosophe d'une philosophie réaliste part tout le temps de nos expériences. Ce que vous avez expérience, c'est d'un jugement libre, ça oui. Vous avez l'expérience d'un acte libre. Vous avez l'expérience d'une obéissance libre. Vous êtes librement ici. Ouais. Au son de la cloche. Et vous attendez. Oui, et vous êtes librement ici. Bon, ça fait partie d'actes libres, ça. C'est pas la liberté. La liberté, ce par quoi l'acte libre est libre. Oui. Nous n'avons jamais directement expérience d'un principe. Dès que je parle d'un principe, c'est quelque chose que je pose à partir d'un acte dont j'ai expérience. Ceci, je dirais, vous voyez, c'est ce premier approche que nous devons faire, parce que, au fond, dans le langage, on confond tout. Si notre philosophie commençait à partir du langage, je dirais, dans le monde d'aujourd'hui, commencez votre philosophie par des mots clés. Comme la liberté. Alors vous commenceriez par ces mots de clé, la liberté. Si notre philosophie commençait par le langage. Ce que je ferais, vous savez comment? Certains faisaient, je me souviens, je ne dis pas qui, mais un professeur éminent faisait un cours, c'était à Fribourg, sur, je ne sais plus trop, je crois que c'était Gabriel Marcel. Alors il avait simplement compté dans toutes les œuvres de Gabriel Marcel quel était le mot le plus employé. Il avait dit, voilà le mot clé de Gabriel Marcel. Bon, alors on va commencer par ce mot-clé pour expliquer Gabriel Marcel. Moi, je veux bien, mais c'est assez matériel, hein, je vais vous le dire. Cherchez le mot-clé dans sa demande. Comptez tous les mots de sa demande qu'il a employés dans les sentences. Je dirais, voilà. Voilà, Saint Thomas, c'est ça, la structure de Saint Thomas. Ce mot-là, il l'a employé tant de fois. On l'a fait pour les citations de Saint Thomas par rapport à Aristote, par rapport à Saint Augustin, par rapport à Denis, par rapport à l'écriture. Heureusement que l'écriture nous porte. Saint Thomas est sauf. Heureusement. Et puis alors après, c'est Augustin. Puis après, c'est Saint Aristote, vous voyez, qui l'emporte. Mais c'est. Alors, c'est pas. C'est très matériel, ça. C'est pas ça qui me fait comprendre quelqu'un. Que ce soit une première approche qui donne un signe, pas plus, un signe. C'est intéressant, première approche, par mode de signe. Et le philosophe ne fait pas une philosophie des signes, il fait une philosophie de la réalité. Alors, vous voyez, c'était pour ça que je mettais l'opposition entre liberté et acte libre. De l'acte libre, je remonte à la source. C'est pour ça que je vous avais dit, regardez d'abord, regardez, c'est intéressant de voir la réaction qu'on a spontanément comme ça. Regardez d'abord les modalités de l'acte libre. Vous voyez qu'il y a un acte libre au niveau de l'intention. Vous voyez qu'il y a un acte libre au niveau du choix. Vous voyez qu'il y a un acte libre au niveau de l'impérium. Trois modalités d'acte libre. Au niveau éthique. Puis vous voyez qu'il y a un acte libre tout à fait différent au niveau du facere. Tout à fait autre chose. Et vous verriez au niveau de l'activité artistique qu'il y a des actes libres très différents. Vous voyez la liberté de l'artiste. La liberté de l'artiste, hein, je dis la liberté de l'artiste. Je peux très bien dire la liberté de l'artiste. Hein. Je ne dis pas la liberté, mais je dis la liberté de l'artiste. C'est-à-dire la manière dont l'artiste est libre. Hein? Alors, pour faire plus court, on dit la liberté de l'artiste. Mais c'est la manière dont l'artiste est libre, la manière dont l'ami est libre, la liberté de l'ami, la liberté de l'artiste. C'est pas la même liberté. Et si on commence à confondre, on fait de très graves erreurs. Puis on ne comprend plus ce que c'est. Mais c'était la première chose que je voulais que vous compreniez. C'est qu'au plan philosophique, on ne regarde pas la liberté, mais on regarde les modalités particulières de l'acte libre. Une fois qu'on a compris ça, on analyse. Parce que le libre arbitre, c'est le fruit d'une analyse. C'est pas direct. Alors le théologien, c'est l'avantage du théologien et c'est l'inconvénient du théologien. Le théologien, lui, part aussi bien du principe que de l'acte, parce qu'il n'a pas de problème à se poser. Il y a une tradition qui provient de Saint-Augustin, puisqu'il y a un livre, De Libro Arbitrio, de Saint-Augustin. Et donc, s'il y a un livre sur le libre arbitre de Saint-Augustin, un fameux livre du libre arbitre de Saint-Augustin, il faut avoir lu ça une fois dans sa vie, n'est-ce pas ? Donc, s'il y a un livre sur le libre arbitre, Saint-Amand reprend, question disputée sur le libre arbitre. Mais on est en théologie. Le théologien peut se servir de thèmes et réfléchir sur ces thèmes. Le philosophe, il doit faire grande attention. Parce qu'il doit tout le temps venir à l'expérience. Le théologien, lui, est dans une tradition. Dans la tradition chrétienne, on sait que l'homme a le libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tandis que le philosophe, lui, doit découvrir qu'il y a le libre arbitre dans l'homme. Il n'a pas le droit de dire, les théologiens disent qu'il y a le libre arbitre, donc il y a le libre arbitre. Ah non, pas du tout. Le théologien, le philosophe part des actes libres, il voit la modalité des actes libres, et il essaie de comprendre qu'est-ce qui est à la racine de l'acte libre. Et il analyse. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, c'est-à-dire d'analyser ces modalités diverses de l'acte libre. Donc je vais vous reprendre ici. L'acte libre de l'intention, l'acte libre du choix, l'acte libre de l'impérium. Quatrièmement, l'acte libre de l'artiste. Mais quand je dis l'art libre de l'artiste, vous voyez, c'est pas assez précis. Parce que l'artiste a différents moments d'acte libre. Alors prenons l'acte libre du choix de l'artiste. On fait une commande à l'artiste. Faites-moi un Christ en gloire. Hein? Faites-moi un Christ en gloire. Alors, il peut, et on lui montre, hein, faites ça comme ça, quelque chose comme ça. Voyez bien le contexte. Alors, faites-moi ça. Il peut très bien dire non, 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 non. Il dit non à cause de quoi? Ou il peut dire oui. Alors, il le dit en tant qu'artiste, hein, on lui fait une commande. Une commande amicale. On lui fait une commande. Bon, s'il fait ça gratis pro deo, c'est pas à cause de l'argent. S'il faisait pas ça gratis pro deo, ça pouvait être, il dit non, parce que ça me prendra beaucoup de temps et je gagnerai pas ma compte. Donc il dit non. Parce qu'il y a des artistes qui sont plus commerçants qu'artistes. Il y a des artistes, toujours, essayer de jauger le bonhomme, hein. Alors voir si c'est un artiste, un véritable artiste, ou c'est un commerçant. Il a pignon sur route, alors il peut mettre des prix très élevés, puis si on ne lui donnait pas plus, il dit non, non. Donc alors à ce moment-là, il dit non parce que ça ne rapportera pas assez. Tandis qu'il peut dire non parce que ça ne l'intéresse pas, c'est pas dense. Il ne le sent pas. Il dirait je ne le sens pas. Non, non. Ah, j'aurais fait ça il y a 10 ans, mais plus maintenant. Alors il dit non à cause de quoi? Vous voyez, le non. Et c'est toujours à partir du non. La liberté s'exprime surtout dans la négation. Les gens qui ont une propension à être libres disent très vite non. Et les gens qui cherchent moins la liberté, qui cherchent moins, ils disent plus facilement oui. C'est très curieux. C'est très très curieux. Il y a des gens qui se font cette... Ah non, 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 non. En réfléchissant, peut-être bien, oui, je pourrais peut-être vous dire oui. Mais en réfléchissant, Mais le problème, ma première réaction était non. Parce que quand on dit non, on garde toute cette liberté pour soi. Tandis que quand vous dites oui, vous vous engagez. Vous n'êtes pas assez. Non. Le moyen. Alors, le non de l'artiste, le non libre, le nom libre du bonhomme qui a fait, qui dit non dans l'exercice, l'imperio, le matin, vous avez 1000 réveils, à l'heure qu'il fallait, 6 heures, c'est ça, bien, bien là, et puis vous êtes éreinté. Alors d'un coup de main, mais tais-toi, parce que si ça dure trop longtemps, votre conscience quand même se réveillera et ira, mais vous y allez. Alors vous dites non, non à la sonnerie du réveil. Il faut mettre le réveil pas très loin des pieds, comme ça c'est un peu de la culture, facilement, pas très loin de la main, il faut l'étouffer et arrêter. Pourquoi dites-vous non? Au nom de quoi vous dites non? Alors que la veille, évidemment, il faut me laisser tard, c'est vrai, je suis fatigué de ça. Parce qu'il y a des gens qui sont plus pieux le soir que le matin. Le dosage de la piété n'est pas toujours le même le soir et le matin. Vous voyez, c'est pour ça que les vieux professeurs, les vieux directeurs de séminaire disait, n'écrivez jamais le soir des lettres à des amis. Eux. Hein? Disait jamais. N'écrivez jamais ça à des amis. Écrivez ça le matin. Parce que le soir, on est plus pieux. Tu vois? Affectivement. Tandis que le matin, on est plus éveillé, plus rationnel. La logique domine davantage. Alors on fait plus d'attention. Et c'est vrai, ça fait partie des conseils, hein, des vieux directeurs spirituels de séminaire. Hein. C'est même mis dans le directoire. Hein. Ça fait partie des choses. Pourquoi dites-vous non au choix Et pourquoi dites-vous non à l'intention? Je prends exprès le non. Alors, on va essayer de voir. Si je suis capable de dire non, c'est bien pouvoir. Ah oui, vous commencez à découvrir ce que c'est que le libre arbitre. Un certain pouvoir, un certain dominium que j'ai sur l'acte que je peux poser ou pas poser. Libre arbitre. Je suis libre de dire oui ou non. Libre arbitre. Il y a un jugement qui est là. Et je suis libre de dire oui ou non. Donc il y a un pouvoir. C'est vrai. Tout acte libre repose sur un certain pouvoir, une certaine dynamis, un certain pouvoir que j'ai. Alors d'où vient ce pouvoir? C'est ça qui m'intéresse aussi. D'où vient ce pouvoir? Bon. Le pouvoir, c'est que je suis capable de prendre mes distances. Si je ne suis pas capable de prendre mes distances, immédiatement je m'engage. Je ne peux pas faire autrement. J'étais forcé. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Et là, j'ai le temps de réfléchir, attendez un tout petit peu. Vous savez, quand on vous demande quelque chose et que ben vous dites, attendez, laissez-moi réfléchir un peu. Laissez-moi prendre le temps de réflexion, reculer un tout petit peu, et puis essayer de comprendre un tout petit peu ce qu'il y en est. Donc, il y a un pouvoir qui me permet de dire non. Et dans la négation, le pouvoir s'exprime d'une façon très nette. Il y a donc un pouvoir qui provient du jugement, l'intelligence. L'intelligence peut juger. Et elle peut juger que cet acte doit être posé, ou cet acte ne doit pas être posé. Donc il y a un jugement pratique. Mon intelligence est engagée de cette manière-là. Un jugement pratique en fonction, alors, l'intention de vie, en fonction d'un certain bien et d'un certain amour que j'ai à l'égard de ce bien. Donc tout acte de liberté va présupposer un jugement d'intelligence et un certain amour, au moins. Je ne dis pas tout acte de liberté. L'acte de liberté le plus fondamental par rapport à l'intention de vie, celui-ci. On va voir si tout ça implique tout ça toujours. Celui-ci, très nettement, cette intention de vie, je suis capable de détourner par une intention de vie, l'invocation. Jean à Saint Jean. Vous avez un acte comme ça. Je l'analyse maintenant. C'est une intention de vie, c'est une intention de vie, ça bouleverse notre vie antérieure. Ça c'est sûr. Il faut faire ses valises. Et puis il faut changer d'habit. Il faut changer de tête au bout d'un certain temps. Avoir la tête de l'emploi. C'est quand même quelque chose de particulier. Ça fait quand même un petit changement. C'est une intention de vie, c'est pas simplement un choix. Non, c'est toute ma vie qui est prise par là. Toute ma vie. Alors, comment avez-vous posé cet acte en disant oui? Parce que là, vous avez dit oui. N'est-ce pas? De temps en temps, on peut dire oui. Ça peut repousser. C'est évident. Il y a toujours possibilité de reprendre un acte. Et le démon le sait. Et le démon agit sur l'imaginaire. Nous savons comment l'imaginaire est très fort. Il y a certains moments quand l'imaginaire est très très secoué, je ne vois plus du tout pourquoi j'ai dit oui. J'étais un imbécile. J'ai dit oui à un moment donné, mais j'étais un peu drogué. Alors j'ai dit oui. J'avais fait une retraite extraordinaire, merveilleuse, étonnante. Et alors je me suis dit oui, c'est pour faire ça, il n'y a pas de... Puis après, je ne vois plus du tout. Bon, plus du tout, il y a un brouillard effrayant. Il y a eu tel petit événement, rien du tout, tel petit événement qui m'a blessé. Alors je dis, ça ne va pas. Alors on vient sur le nom. C'est vrai, on peut toujours, hein, libre arbitre, qui est à l'origine, jugement. Alors, j'explique comment on a dit oui. On a dit oui à cause d'un amour vis-à-vis de ce bien. Cet amour était tellement fervent, tellement fort, que mon jugement a dit il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas moyen de faire autrement. J'ai demandé conseil, et puis on m'a dit, en effet, c'est bien ça. Ça m'a aidé. C'est pas à cause du conseil, hein, que j'ai posé le jugement, mais ça m'a aidé. Ça a écarté quelques petits obstacles. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. L'amour est tellement fort vis-à-vis de ce bien, qu'il me pousse vis-à-vis de ce bien, que mon jugement dit, oui, il faut accepter cet amour. Cet amour ici, c'est le Christ, mais j'ai le droit philosophiquement d'analyser ça. Je dis qu'il y a quelque chose de particulier, il y a un mystère de foi là, par derrière, mais au fond, c'est net, c'est un amour qui m'a porté à dire oui. Et l'amour a été plus fort que la réflexion sur toutes les difficultés possibles. J'ai vu les difficultés, j'ai vu. Non, je me dis, j'étais pas tellement adapté à ça. J'avais jamais pensé à ça. Moi, avec un habit, je ne me suis jamais regardé dans la glace avec un habit. C'est drôle, j'ai vu les autres comme ça. Les autres, ça paraissait normal, mais moi, pas du tout. J'ai jamais vu comme ça. Non. Les autres, oui, il faut des curés, il faut des moines, c'est évident. Mais moi, je n'étais pas dedans. Là, je ne vois du tout. Puis un beau jour, tiens, là, ça change. Puis je me regarde, et puis je dis, c'est curieux. Ça va pas. Le jugement se porte sur cet amour et qui voit que cet amour s'impose. S'impose comme le seul moyen, la seule chose qu'il faut faire. Alors, jugement qui dit oui. Qui dit oui à l'amour. Mais le jugement qui dit oui à l'amour. J'éclaire cet amour, je comprends ce qu'est cet amour, je comprends l'importance de cet amour, je comprends le poids de cet amour. Et je dis oui à cet amour. Le jugement dit oui. Et en disant ce oui, eh bien je pose un acte libre. Vous voyez que cet acte, qui est l'acte fou aussi, hein, quand c'est l'intention de vie, parce que ça porte sur un amour à l'égard d'une personne. Vous verriez la même chose pour un amour d'amitié. Dans un amour d'amitié, on dit oui à une personne, en considérant que c'est un bien et que ça peut être quelque chose de très grand et très beau. On dit oui. Alors, cet amour d'amitié disant oui, on canalise toutes ses forces vers cela. J'ai jaugé si ce bien pouvait être ma fin. Passage du bien, ce premier amour vers le bien, il est spontané. Quand je dis cet amour qui dit du bien, c'est très bien, parce que ce bien est ma fin. Alors là, j'ai jugé de la qualité de cet amour, en voyant que cette qualité de cet amour vis-à-vis de ce bien, il me finalise. Il est capable de prendre toutes mes forces et de m'unifier. C'est là où il y a un jugement qui rend lucide cet amour. Et à ce moment-là, je peux dire que ce jugement à l'intérieur de l'amour, je suis en face du libre arbitre qui est principe d'un jugement que je pose, d'un acte de jugement libre, ce jugement qui me dit oui, il faut accepter. Et à ce moment-là, l'amour qui se porte sur ce bien fin, sur cet ami, est un amour libre, qui va du reste rejoindre le choix. On en voit après. Autrement dit, dans cet acte d'amour, vous avez que le fondement de cet amour, le fondement de cet acte libre, c'est l'amour. Plus cet amour est fort, plus mon acte, mon jugement qui portera sur cet amour sera libre. Plus il va s'imposer en même temps, c'est très curieux, mais sera en même temps libre. C'est-à-dire que je le choisis comme ce qui est mon bien. Et je me porte vers ce bien. Je sais très bien que je peux suspendre cet acte et je peux très bien suspendre ce regard vers cet amour. Je peux très bien dire non, vaut mieux se détourner. Au contraire, on accepte. Alors, jugement qui porte sur l'acceptation de l'acte, de l'exercice de l'acte. Je pose cet acte. Je ne le pose pas. Je dis oui, je peux le poser. L'exercice. Je n'ai pas choisi le bien. Le bien s'est imposé. Donc la liberté n'a pas porté sur le caractère particulier de cet acte. La liberté a porté sur l'exercice de cet acte. Je me laisse attirer. Je me laisse prendre. Liberté, on dira, d'exercice. Voyez, et cette liberté d'exercice, c'est la liberté la plus fondamentale. C'est la liberté d'exercice. Je peux poser cet acte ou ne pas le poser. Je suis libre de le poser ou pas le poser. Et je le pose librement. Et cette liberté, donc, implique le libre arbitre, le libre arbitre a toujours volonté, intelligence. Et c'est les deux. Il n'y a pas une faculté particulière, une faculté nouvelle. Non. C'est le concours, la coopération de l'intelligence et de l'amour qui me permet de poser un acte libre. S'il n'y avait pas le concours de la volonté aimante, de ma capacité d'aimer et de ma capacité de juger, il n'y aurait pas possibilité de poser un acte libre. Je vois que je pourrais très bien me détourner de cet amour. Cet amour, il est quelque chose de profond, qui m'a saisi, qui s'est imposé comme quelque chose où, au-delà de la liberté, plus profondément de la liberté, mais je peux suspendre cet acte. Je peux très bien me détourner. Ça me fera peut-être souffrir, ça c'est autre chose, hein. Mais je peux me détourner. Je peux prendre une autre voie. Très bien, me détourner en disant non, il vaut mieux pas. Au contraire, je peux accepter. Je sais qu'en acceptant, le bien s'impose à moi. Je ne vais pas dire je vais entrer dans la communauté de Saint-Jean pour changer la communauté de Saint-Jean. Je l'aime tellement que je veux la changer. Alors à ce moment-là, je la choisis avec une délibération de changer. Ce n'est pas un choix, ça, c'est pas une intention de vie. Dans une intention de vie, ça se porte sur un bien qui s'impose à moi tel qu'il est. Autrement, je ne l'aime pas. J'en fais mon œuvre. Et dès que quelqu'un veut faire son œuvre, il ne l'aime plus. Il n'aime plus son dominium, sa capacité de dominer, que vraiment la réalité profonde. Mais c'est très important de comprendre la qualité de liberté de l'intention. Vous avez un autre acte libre, le choix. Dans le choix, l'élément du jugement ne porte plus seulement sur l'acte. L'élément du jugement continue de porter sur l'acte, parce que vous pouvez toujours. Vous entrez dans une boutique, vous voyez des quantités de tableaux, vous faites un tour, vous dites « aucun ne me satisfait ». Vous étiez entré pourtant avec l'intention d'en acheter un. Mais il fallait choisir. Et là, non seulement vous ne choisissez pas, mais vous suspendez votre acte. Aucun ne me satisfait. Et donc, je suspends mon acte. Alors, cette liberté de choix va impliquer aussi cette liberté d'exercice. Donc, la liberté d'exercice demeure toujours. Hein. Elle est fondamentale. Je peux tout le temps arrêter. Je sais, tout le temps arrêter. Je peux tout le temps être comme l'âne qui dit non. J'avancerai plus. Bien que vous ayez choisi l'intention de choix, bien que vous ayez choisi, toujours. C'est du reste très beau, hein. C'est très ennuyeux, mais c'est très beau. Ôte-moi, Seigneur, la liberté de t'offenser, hein, petite Thérèse. C'est pas très, 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 très philosophique et très théologique. On voit très bien ce que c'est. On voit ce que ça veut dire. Parce que quand on voit qu'on peut toujours avoir une mauvaise tête, je veux tout le temps avoir une mauvaise tête. Alors on dit quand même, Seigneur, ôte-moi ma tête et mets une bonne tête. Alors à ce moment-là, ça vaut mieux. Donc dans la liberté de choix, il y a la liberté d'exercice qui demeure. Et puis il y a une liberté qui va entrer plus profondément. Si je peux choisir tel ou tel moyen, tel ou tel moyen. C'est une liberté de spécification qui provient encore du jugement. C'est le jugement qui ne porte plus seulement sur la possibilité de poser un acte ou pas poser un acte, mais qui juge encore de l'opportunité de poser ce moyen. De l'opportunité de poser ce moyen, ou de la non-opportunité. On vous donne un livre à lire, vous devez être censeur, et vous devez porter un jugement de l'opportunité ou de la non-opportunité de l'apparition de ce livre. Sans demander conseil à l'auteur, hein. L'auteur il est sûr que c'est très important, mais c'est l'opportunité ou la non-opportunité. Alors, c'est une question du moyen. Vous voyez s'il faut poser ce moyen ou pas ce moyen. Si c'est bon, si c'est harmonieux, si ça ne va pas trop bouleverser toutes les choses. Alors, c'est la qualité à l'égard du moyen. On porte un jugement, vous voyez, un jugement d'estimation sur le moyen. Alors là, on comprend que cette liberté est encore beaucoup plus manifeste, parce que c'est une liberté de spécification qui porte sur tel ou tel moyen. Et liberté d'exercice, poser l'acte ou pas le poser. Donc il y a une double liberté. Donc c'est encore plus fort. C'est pour ça qu'ordinairement, quand vous voulez montrer la liberté, vous prenez toujours la liberté de choix. Mais alors c'est beaucoup plus difficile, vous tombez dans le panneau avec tous les psychologues. Tandis que la liberté d'exercice, les psychologues ne peuvent rien dire, ils ne la regardent pas. C'est-à-dire, il y a tout le temps la liberté de choix. En disant, mais vous croyez avoir choisi librement? Si vous allez voir un psychologue en disant, voilà, j'entre dans la communauté Saint-Jean. Ah, votre choix, à cause de quoi? Ah, par amour pour le Christ. Vous croyez? Pas du tout. Pas du tout, c'est pas vrai du tout. Vous entrez là, c'est parce que ça vous plaît. Il y a parce qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré qui vous a séduit. Parce que vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez, qui est là. Et c'est uniquement ça. C'est parce que vous avez été refusé partout ailleurs. Alors vous entrez là. Mais c'est une situation. Là, vous êtes sûr d'avoir la soupe tous les jours et puis le beefsteak les jours de fête. Alors vous entrez là. Vous entrez là, c'est pas du tout motivé. Pas du tout. Alors on cherche les motivations, vous voyez? On cherche les motivations, toutes les motivations secondaires, apparentes. Alors, vous dites, ah non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. Mais oui, si vous ne le savez pas, vous le cachez, c'est caché dans votre imaginaire. Mais si vous faites attention, vous verrez bien que c'est ça le vrai motif, hein, vous savez. Dernier motif, primum vivere. Hein. Vous n'avez pas envie d'être un clochard sous ne pas avoir de quoi manger. Le loup et le chien de la fontaine, hein, faut jamais l'oublier. On accepte d'avoir un collier, hein, parce que tout simplement, on a la pitance tous les jours. Et bon, c'est ça qui commande le choix. Hein. Pour le psychologue, c'est ça. Parce que c'est primum vivere, c'est ça qu'on voit, le point de vue sensible, le plus immédiat. Il ne regarde pas l'appétit spirituel, il ne regarde pas l'amour spirituel, il ne voit pas. Il ramène ça. Que ça joue, c'est possible. On est des êtres humains. C'est possible. Tant que possible, il faut choisir un métier dans lequel on aura de quoi manger tous les jours. N'est-ce pas? Il faut autant que possible. Mais c'est très secondaire. Ça arrive en dixième position. On ne l'a jamais regardé, du reste, quand on est jeune. Quand on commence à vieillir, hein, c'est vrai. Un besoin de se stabiliser. Bon, alors, on a besoin de se stabiliser. On a des screws un peu partout. On a vu, si ça continue indéfiniment, où est-ce qu'on ira? Alors, on se dit, bon, se stabiliser. Le moyen de. On désire se stabiliser. c'est sous-jacent, ou c'est pas premier, mais ça peut arriver. Alors, voyez, le choix, c'est beaucoup plus difficile au point de vue psychologique. Parce que les psychologues vous diront toujours que les choix explicites ne sont pas les vrais choix. Je ne sais pas s'ils ont raison. Je ne sais pas du tout. Parce que je crois que les choix explicites peuvent encore avoir quelquefois raison. Mais c'est possible, hein, c'est possible, parce que les psychologues regardent avant tout le point de vue. Vous savez bien, le point de vue du malade qui est en nous. Alors, le malade qui est en nous, c'est celui qui n'est pas actué. C'est ma capacité de faire toutes les bêtises du monde. C'est ça le malade en moi, parce que je suis capable de toutes les bêtises. Tous. Alors, dans les capacités que je peux regarder de ce côté-là, elles sont toujours très nombreuses, c'est le point de vue de la potentialité. Mon être n'est pas encore déterminé. Mon être est à déterminer. Il se détermine toujours, mais il n'est pas encore déterminé. Et je sais très bien que j'ai toutes les indéterminations de tous les hommes possibles au monde. Mais ces indéterminations peuvent être assez éloignées quand même. Si je sais la qualité de mon amour, quand même, ça peut être un peu plus loin. Et comme le psychologue ne regarde pas cette qualité de l'amour, il ne regardera que ça. Et puis là, il est sûr de réussir tout le temps. Tandis que la qualité de l'amour, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus personnel. Vous voyez, c'est très curieux, ça. C'est très intéressant, regardez. Les motivations psychologiques et le véritable motif du choix. Alors, les motivations psychologiques vous diront, vous n'avez pas du tout choisi. Vous avez tout simplement, ça s'est imposé à vous. Vous ne l'avez pas vu, mais c'est l'inconscient. C'est l'inconscient qui vous a déterminé. Oui, donc vous n'êtes pas libre. C'est votre conditionnement. Donc vous n'êtes pas libre. Ils refuseront cela. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de refuser cette liberté-là. C'est pour ça que cette liberté-là est beaucoup plus manifeste, mais elle est beaucoup plus critiquée aussi. La liberté de choix, au point de vue, la liberté de choix, beaucoup la refusent. Hein. Quelqu'un comme Sartre refuse la liberté de choix. Et il accepte que la liberté d'exercice. C'est très curieux, ça. À cause de l'influence psychologique. Il faut le savoir. Bon, troisième. Alors, donc, là, c'est la liberté de spécification. La liberté de l'imperium. Dans la liberté de l'imperium, c'est quoi? C'est en définitive de poser l'acte ou de ne pas le poser. J'ai appris tous les exercices pour me mettre à nager. Puis à la dernière minute, j'ai une fausse impasse. J'ai dit non. Pas aujourd'hui, demain. Et c'est toujours comme ça. Pas aujourd'hui, demain. Je veux me mettre à travailler Aristote. Non, pas aujourd'hui, demain. Puis demain, je dirai encore pas aujourd'hui, demain. Vous voyez ? Et puis je retarderai toujours. Poser l'acte ou ne pas le poser. Je retrouve cette liberté très fondamentale de l'intention. Mais ce n'est plus au plus intime de moi, c'est du côté de l'exercice extérieur. Ah, c'est plus facile à saisir. Poser un acte ou pas poser. C'est libertine, c'est pas du côté de la spécification. C'est uniquement du côté de poser un acte extérieur, manifester, accepter de paraître en public. On a le trac. Oui. Première fois que vous prêcherez, il faudra que quelqu'un vous pousse en vous disant « vas-y ». Puis à la fois vous serez en... Avant on était en chair suspendue, alors là on ne pouvait pas descendre, on était bien amoureux de regarder. Maintenant on est plein d'eau. C'est vrai, la première fois qu'on doit aller, c'est pas commode. Alors on a un arrêt devant l'exercice de la chose extérieure. Quelque chose qui nous empêche. Il faut un acte de force, poser ça, un acte volontaire qui revient. C'est vrai, il y a une liberté particulière de poser ou de ne pas poser. L'acte extérieur. J'ai donc trois modalités différentes. Vaincre la difficulté extérieure de se manifester et de poser un acte extérieur. Et ça peut être quelquefois très fort. Pour les intellectuels, c'est très fort, quelquefois. Parce que le point de vue intérieur, ça va. Mais le point de vue extérieur, c'est beaucoup plus terrible. On est jeté à la fosse aux ours, ou au lion, ça dépend. On est jeté dedans. C'est vrai, ça ne peut pas être autrement. Tandis que tant qu'on pense, on est tranquille. Personne ne peut nous déloger. Tandis que là, il y a à vaincre un obstacle fameux. Bon, je crois que ces trois types de liberté, vous voyez, reposent et se fondent sur l'amour. C'est pour ça que devant la difficulté, il faut venir à un acte plus profond d'amour. Chaque fois que je suis en face de ces actes où j'ai un obstacle, une difficulté, il faut revenir à un amour plus grand pour vaincre la difficulté et ne pas dire non et poser un acte positif. Mais toujours, il y a le jugement qui est là. Et le jugement essaie de comparer cet amour avec tel moyen. Tel moyen avec la fin. Et de voir si ce moyen convient ou pas. Or, aucun moyen n'est adéquat à la fin, donc tout moyen, je peux le choisir librement ou le refuser. Or, l'exercice n'est jamais adéquat à ce que représente mon intention, et c'est pour ça que je peux tout le temps refuser. Il y a toujours possibilité, parce qu'il y a un hiatus entre les deux. Même le premier amour, vous voyez, le premier amour, je peux même le refuser, ce premier amour. Parce que je vois tout de suite tout ce que ça va m'engager. Ce premier amour, c'est très bien, mais est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien celui-là? Est-ce que c'est bien cette intention? Est-ce que c'est bien ça? Alors on va visiter un autre lieu, un autre lieu, un autre lieu, et plus on en visite, moins on est capable de poser l'attention. Parce que plus on voit comme il dit, c'est vrai. Rien n'est adéquat au premier amour. Et ce premier amour n'est même pas lui-même adéquat à mon bien. Et donc je peux toujours le refuser, en disant attendons, à un moment donné j'aimerais plus. Alors, le dernier, le choix de l'artiste. Le choix de l'artiste, il repose sur l'inspiration. Là, une très grosse différence. Je vois qu'on peut dire tout acte libre au niveau moral se fonde sur l'amour. Alors que lorsqu'il s'agit de l'activité artistique, l'acte libre de l'artiste se fonde sur l'inspiration. Il y a deux fondements d'actes libres. L'amour à l'égard du bien et du bien spirituel ou l'inspiration. On n'est qu'à réfléchir. On est tous un petit artiste. Plus ou moins. C'est dans la mesure où vous avez une certaine inspiration que vous pouvez choisir tel ou tel moyen pour exprimer votre inspiration. Si vous n'avez pas d'inspiration, va comme je te pousse. J'ai pas d'inspiration. Ah, vous me dites qu'il faut faire ça? Oui, je crois en effet, très bien. Paraît pas si mal. Et quand vous faites la cuisine, par exemple, une sauce, si vous avez une inspiration, et l'inspiration pour faire une sauce qu'on n'a encore jamais vue, n'est-ce pas, sauce extraordinaire, à ce moment-là, vous voyez, vous pouvez choisir les moyens en vue de réaliser ça. Tandis que si vous n'avez aucune inspiration, vous dites, faites telle sauce. Ah, très bien, comment ça se fait? Comme ça, faites-le. Vous exécutez bêtement. Sans inspiration, je ne dis pas qu'elle sera meilleure, ça dépend. Mais je ne dis pas que celle où il y a l'inspiration, elle sera nécessairement meilleure. Ça dépend, hein. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Alors celui qui l'a fait la trouvera la meilleure au monde, et puis tout le monde la trouvera très mauvaise. Ça, c'est autre chose. Mais ça repose sur l'inspiration. S'il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de liberté artistique. Vous exécutez. Tandis que dès qu'il y a inspiration, il y a l'intelligence des possibles. puisque l'inspiration porte sur les possibles. Alors, puisque l'inspiration porte sur les possibles, je vois toutes les possibles qui peuvent rêver et les moyens. Je peux juger de la valeur d'un moyen à l'égard de tous ces possibles. À l'égard d'une possible, j'ai choisi. J'ai opté pour l'exécution, ou au contraire, de ce possible qui s'impose à moi. Alors, il y a quelque chose de très particulier, je ne traite pas ici. On l'avait traité à propos de l'art, et c'est intéressant de le traiter à propos de l'art, à propos du choix créateur. De montrer que le choix créateur, quand on dit que le choix créateur est un choix libre, le choix créateur s'impose nécessairement chez un grand artiste. Donc, la liberté de l'artiste, c'est dans l'ordre de l'exécution. Ce n'est pas dans le choix, parce qu'elle s'impose nécessairement. C'est dans l'ordre de l'exécution. C'est donc bien dans l'ordre de l'exécution, du côté de pouvoir poser un acte ou pas poser. Mais alors, poser un acte ou pas poser, ce n'est plus le fondement l'amour, c'est l'inspiration.
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,